Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
C'est pas le temps de faire ça.
On retrouve Loïc Tassé, spécialiste en politique internationale. Bonjour Loïc.
C'est Vincent.
Alors, on commence en Ukraine. Visite diplomatique d'importance?
Oui, il y a Erdogan, le président de la Turquie, et Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui sont là, qui sont à Lviv, donc cette ville qui est à l'extrême ouest de l'Ukraine, et qui rencontrent Zelensky. Alors ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on voit vraiment la diplomatie à l'œuvre. Des fois la diplomatie, c'est une perte de temps considérable, mais parfois ça marche. On l'a vu par exemple avec le grain, on arrive à sortir des céréales de l'Ukraine, ça c'était une bonne nouvelle. Alors, la nouvelle offensive diplomatique de Guterres et donc du président turc semble concerner la centrale nucléaire de Zaporizhia, tu sais, qui est tenue par les Russes. Et on se souvient que cette centrale a un problème. D'abord parce que c'est une centrale nucléaire et qu'elle est en plein milieu d'une zone de guerre. C'est dangereux, bien entendu, en soi. Mais aussi, il semble que les Russes utilisent cette centrale comme bouclier, c'est-à-dire qu'ils ont stationné là un certain nombre de canons, etc. Et que les Ukrainiens n'osent pas trop leur tirer dessus parce que, évidemment, un tir pourrait dévier, pourrait atteindre la centrale. Même si les centrales sont conçues pour résister à des tirs d'obus, il y a personne qui aime trop qu'on tire sur des centrales nucléaires. Donc, la question serait de faire de cette centrale nucléaire une zone neutre, que les soldats s'en retirent, que ni les Ukrainiens ni les Russes ne puissent bénéficier de cette centrale nucléaire et qu'elle continue à fonctionner. Les Russes, pour le moment, semblent faire augmenter la pression en disant « Écoutez, on pourrait tout simplement la fermer, la centrale de Zaporizhia ». Ce qui ne fait évidemment pas l'affaire des Ukrainiens parce qu'ils ont besoin de l'énergie qui est produite par cette centrale. Donc, on en est là en ce moment, mais encore une fois, c'est très intéressant de voir la diplomatie à l'œuvre. C'est pas les diplomates qui vont mettre fin à la guerre en Ukraine, non. Mais par contre, ils sont capables, sur certains problèmes très précis, sur certains enjeux très précis, peut-être de faire bouger les choses. Il faut le souhaiter pour la centrale.
Ça permet un peu de baliser le conflit là, sur certains points.
Ben d'améliorer la situation, tu sais. C'est sûr qu'encore une fois, ils vont pas décider de qui va gagner, de quels seront les territoires en ce moment, parce que les deux belligérants veulent continuer à se battre. Les Ukrainiens pensent qu'ils peuvent remporter beaucoup plus, qu'ils peuvent regagner du territoire, particulièrement dans le sud. Et d'ailleurs, ça sent très mauvais pour les Russes en ce moment, parce que les Ukrainiens sont en train systématiquement de bombarder plein de dépôts de munitions dans le sud et jusqu'en Crimée, à tel point que les Russes ont décidé d'envoyer un certain nombre d'avions MiG-31 et d'hélicoptères à l'extérieur de la Crimée, parce qu'ils se disent que ces armes-là, ces avions-là, ces hélicoptères seront les prochaines cibles des Ukrainiens. Et d'autre part, on voit bien que les Russes avancent très, 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 très lentement dans le Donbass. Ils n'arrivent pas non plus à percer au nord. Donc, il y a une guerre d'enlisement au nord et à l'est de l'Ukraine. Donc, c'est sûr que il y a personne qui veut négocier véritablement pour le moment. Comme je te disais, les Ukrainiens pensent reprendre du territoire au sud. Et les Russes pensent toujours arriver à gagner l'entièreté du Donbass et des territoires dans le nord. Donc, c'est pas ça que la diplomatie peut faire.
Mais tu parlais entre autres des avions de chasse. On comprend que la négligence, ils peuvent plus se permettre ça de mettre un paquet d'avions, de jets un à côté de l'autre sur la même base. Ce qui implique beaucoup plus de logistique quand t'es obligé de séparer tes affaires, les éloigner, ou là, t'es plus capable d'avoir la même autonomie pour entrer loin dans le pays, par exemple. À chaque fois, ça rajoute une couche de complexité.
Oui. Et en fait, on n'est pas très sûr, n'est-ce pas, que les dépôts de munitions ont été ciblés par des obus tirés par les Ukrainiens. C'est possiblement aussi des actes de sabotage. En tout cas, c'est ce que prétendent les Russes. Mais d'autre part, on sait que les Ukrainiens disposent de canons qui ont été donnés par les Américains, par les Français, par les Anglais, qui ont une portée beaucoup plus considérable qu'auparavant, enfin que les canons qu'ils avaient auparavant, et une précision qui est bien plus grande aussi. Donc effectivement, comme tu le dis si bien, on peut plus garder des avions exactement au même endroit, les uns à côté des autres, parce que ils risquent d'être détruits beaucoup plus facilement par les Ukrainiens, en tout cas du côté russe, c'est certain.
Ou de les mettre à côté d'une grange remplie de bombes, là. Ça aussi, ça semble pas fonctionner.
C'est pas une très bonne idée. Et je suggère pas aux gens d'aller faire du camping à côté d'un dépôt de munitions non plus, dans les temps qui courent.
Parlons des États-Unis et de Taïwan. Négociations en cours pour une nouvelle entente commerciale.
Oui. Et ça, c'est très important ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que, tu sais, quand on regarde l'évolution de la situation entre Taïwan et la Chine continentale, on se dit, bof, à long terme, la Chine va finir par manger économiquement Taïwan, parce que les relations économiques entre les deux pays ont énormément cru entre 2000 et 2016. Ça a diminué depuis, mais c'est... éventuellement, Taïwan va tomber dans le giron de la Chine. C'est une question de décennies, tu sais, on pourrait voir ça avant notre mort, tous les deux. Mais les États-Unis, évidemment, ont besoin de Taïwan. Bien sûr, il y a toute la question de la démocratie à Taïwan, on en a parlé tous les deux. C'est sûr qu'on protège des démocraties, qu'on n'est pas content qu'une démocratie soit menacée par un régime totalitaire comme celui de la Chine, c'est clair, même si tout le monde sait que Taïwan, effectivement, c'est un territoire chinois. D'accord. Cela étant dit... plus les Américains augmentent leur coopération économique avec Taïwan, plus ils ralentissent en réalité le processus d'intégration économique de Taïwan dans la Chine continentale. Et c'est ça qui est en train de se décider. Cet automne, les États-Unis doivent négocier de grands accords commerciaux, on sent des accords de libre-échange, dans 11 secteurs importants. Et ça va probablement beaucoup aider Taïwan à rester indépendante économiquement. La Chine est vraiment pas contente de ça, est assez furieuse. Et paradoxalement, je te dirais que ça donne un prétexte ça, à la Chine pour envahir Taïwan, parce que évidemment, ça va être beaucoup plus long pour la Chine d'arriver à conquérir économiquement Taïwan.
J'avais hâte de t'entendre sur le prochain sujet, Loïc, et de ce que ça implique, parce qu'on voit qu'un haut dirigeant de la compagnie de Donald Trump plaide coupable à des accusations de fraude fiscale. Est-ce que Donald Trump va dormir encore moins bien la nuit prochaine?
Je pense que oui. Alan Weisenberg a été pendant 15 ans un haut dirigeant de l'organisation de Donald Trump, et il vient de plaider coupable de fraude. Donc, il n'y aura pas de procès, donc il n'y a personne qui va être appelé à la barre. Si tu veux, pour Donald Trump, c'est une aubaine, mais d'autre part, il y a de la fraude. Ça signifie que l'organisation de Donald Trump a fait de la fraude fiscale. Tout le monde s'en doutait. Mais lui a plaidé coupable à ça, il va être condamné. Puis la prochaine étape, c'est de savoir qui d'autre va être condamné. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à Donald Trump?
Mais est-ce qu'on pourrait aussi lui dire, t'as plaidé coupable, pas de peine en échange de témoignage contre Donald Trump?
Ou peine réduite.
OK.
Une peine réduite, on pourrait négocier quelque chose avec lui, en effet. Je ne sais pas ce qui a été négocié, mais comme toi, ça m'est passé par la tête quand j'ai lu cette nouvelle ce matin. Je me suis dit, oh là là, il a plaidé coupable assez facilement. D'un côté, comme je te dis, c'est bon pour Donald Trump parce que ça lui fait pas trop de publicité, puis il a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Mais d'un autre côté, effectivement, est-ce que il n'a pas passé une entente avec les procureurs pour qu'on puisse attraper d'autres personnes dans l'organisation de Trump et possiblement Donald Trump lui-même.
Parce que c'est dur de dire, ah, mais c'est toutes des fausses accusations, c'est juste la justice qui est contre Trump à quand tu plaides coupable.
Non. Ça va être très difficile, effectivement, pour Donald Trump de dire que ce type... il va sûrement dire, oh, c'est un incompétent, etc. Oui, un incompétent que tu as gardé avec toi pendant 15 ans et à qui tu as donné de très hautes responsabilités dans ton organisation, qui était autour du CA quand tu discutais de projets stratégiques, etc. Non, ça ne tient pas la route. Mmh. Mais malheureusement, je ne pense pas que ça convainque les électeurs républicains. Il y a Pierre Martin qui a fait une excellente chronique dans le journal de Montréal ce matin et qui dit, écoutez, le parti républicain a cessé d'être un parti normal. Il ne faut plus le traiter comme un parti normal. C'est une secte qui est dirigée par un gourou. Et je pense que ce qui est arrivé avec Liz Cheney, dont on a parlé hier, ben on est la preuve de ça.
Ouais, ils sont teflon un peu à tout scandale en ce moment.
C'est irrationnel de la part des électeurs de Donald Trump de continuer à appuyer cet homme qui, de toute évidence, est un malade mental, un bandit et quelqu'un qui est en train d'essayer de déstabiliser la démocratie américaine.
Parlons du gouvernement japonais en terminant, Loïc, parce que d'ailleurs, je voyais des études récentes qui montraient que les jeunes semblaient consommer moins d'alcool. Dire que dans certains cas, peut-être qu'il y a dans certains événements plus de drogues synthétiques ou d'autres problématiques, mais pour l'alcool, un peu moins, surtout la bière entre autres. Et là, le gouvernement japonais trouve que ces jeunes boivent pas assez.
Ils boivent pas assez. Donc, le gouvernement japonais, en tout cas, il y a une société d'État japonaise qui veut inciter les jeunes à boire davantage. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a 30% des gens entre 40 et 60 ans qui boivent de l'alcool régulièrement, mais chez les jeunes qui ont 20 ans et plus, ce n'est que 7,8% des gens qui boivent de l'alcool régulièrement. Et quand on regarde les revenus de la société d'État qui s'occupe de tout ça, quand l'ensemble des revenus qui viennent des taxes de l'alcool, on s'aperçoit qu'en 1980, l'État tirait 5% de ses revenus en taxes, c'est beaucoup, de l'alcool. En 2021, 1,7%. Donc les gens boivent beaucoup moins, en effet, d'alcool. Mais donc, ils ont parti un concours, figure-toi, la société d'État qui s'occupe de ça, a parti un concours de marketing pour savoir quelles seraient les meilleures idées pour inciter les jeunes à boire davantage. Alors, inutile de dire qu'au Japon, ça fait lever plusieurs sourcils, ça fait pas lever le coude du tout. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, un instant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? En particulier, le ministère de la Santé au Japon, qui dit, non, mais qu'est-ce que c'est que cette campagne idiote? C'est bien de moins boire comme ça, parce que il y a une différence, n'est-ce pas, entre boire, je te dirais, de manière agréable dans un repas, tu prends
bien,
un
pain, ouais.
C'est pour le goût, etc. Et boire pour se saouler la gueule, ça c'est tout à fait condamnable. Et malheureusement, c'est un trait culturel qu'on retrouve chez beaucoup de Japonais qui travaillent très 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 fort jusqu'à 8 heures du soir. Oui. Ensuite, on va entre collègues manger et prendre un coup. Et en fait, on rentre pas à la maison parce qu'il n'y a plus de train, il n'y a plus d'autobus. On descend dans un micro-hôtel, tu sais, où on se lit un petit lit, une alvéole, en fait, quasiment, et on retourne travailler à 7 heures le matin. C'est très, très malsain comme façon de fermer.
Oui, mais j'ai vu, j'ai eu la chance.
C'est cette culture-là qui est remise en cause, en fait.
J'ai eu la chance d'aller au Japon avant la pandémie, et entre autres, une des choses que, en fait, je pense pas qu'on a beaucoup ici, c'est les bars à l'heure. Donc, il y avait bars à saké à l'heure. Donc, tu payes à l'heure, mais tu peux boire tant que tu veux. Et là, on comprend que pour bien des jeunes universitaires japonais qui ont des moyens limités, puis avec le coût en général de la vie là-bas, entre autres à Tokyo, je peux te dire que ça y allait au toast. Puis après ça, tu vas dans un bar à karaoké, puis les Japonais en boisson, ça donne pas leur place aussi dans un party.
Oui, et c'est très drôle parce que effectivement, les Japonais sont plutôt introvertis. C'est une culture de gens très introvertis. Alors que les Chinois sont extravertis, sont un peu latins. Mais très introvertis, les Japonais en général. Et quand ils boivent, ils se donnent le droit d'être plus extravertis aussi. Ça fait partie de la donne culturelle, ça. Et donc, le problème de l'alcool chez les jeunes au Japon, c'est en fait un problème qui est bien plus profond qu'on peut penser en surface. Et c'est un problème culturel. C'est un problème de changement, presque, j'ai envie de te dire, de paradigme culturel au Japon qui est en train de se produire.
Très intéressant, mais je pense que ça, je pense que les jeunes aussi chez nous, mais la SAQ fera pas oui. ça d'un concours de promotion pour les jeunes.
J'espère que non. Pas. Ça serait idiot de faire ça. Mais ici aussi, je pense. Mais tu sais, ça, c'est une mode très anglaise, hein. C'est très américain que de boire pour se saouler la gueule, pour avoir un effet. Tu sais, on comprend qu'il y a certains endroits très reculés au Québec où t'as ce genre de choses qui sont, ou très froides. Mais c'est pas une culture qui est très agréable. Et en général, dans le monde, les gens ne prennent pas d'alcool pour se saouler. S'ils saoulent, c'est un accident. C'est pas grave. Mais on boit parce que c'est agréable avec de la nourriture ou entre amis de prendre un verre, tout simplement. C'est la seule raison.
Merci Loïc, à demain.
Salut, à demain.